morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle matinale de Radio Prévert. Bonjour Stéphane.
Bonjour Manon.
Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec la première chronique météo.
C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. On attend un temps largement pluvieux sur tout le département. Aucun répit pour aujourd'hui. Le mercure devrait atteindre les 5 degrés à Châlons, au Creusot et à Pierre-de-Bresse. À Mâcon et Bourbon-Lancy, il fera 7 degrés au meilleur de la journée. Jeudi et vendredi, on conservera un temps similaire avec des averses de pluie. Les températures ne dépasseront pas les 8 degrés. Dès vendredi après-midi, le soleil fera son retour, accompagné d'une baisse du mercure. Météo France prévoit 4 degrés. Les deux jours suivants, c'est un week-end maussade en perspective. Le temps sera à la pluie, voire à la neige sur les hauteurs du département. Les températures seront proches du zéro. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec une page environnement. On est en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique. C'est le message fort lancé par le président de la République. Hier, Emmanuel Macron a organisé un sommet afin de répondre aux problèmes du réchauffement climatique. Une cinquantaine de chefs d'État étaient réunis à l'occasion du deuxième anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Le président a clairement montré son intention de mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles. L'urgence est devenue permanente et le défi de notre génération est d'agir contre le temps, a-t-il déclaré. Ce sommet intervient après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte historique contre le réchauffement qui vise à contenir la hausse de la température sous le seuil de 2 degrés. On poursuit avec le décès d'un célèbre rooftopper en Chine. Le sport qui consiste à grimper toujours plus haut afin de dépasser ses limites en escaladant des immeubles, par exemple, a coûté la vie à Wu Jongling. Âgé de 26 ans, il était très populaire et actif sur les réseaux sociaux où il diffusait ses exploits. L'accident est intervenu le 8 novembre dernier quand il perd pied et chute depuis le 62e étage d'un immeuble. L'annonce de sa mort a été rendue publique par son ex-compagne qu'aujourd'hui. Le jeune homme participait visiblement à un challenge pour remporter 13 000 euros. Et pour terminer, vous avez forcément reconnu ce générique mythique. C'est le film le plus attendu de l'année. Star Wars revient ce mercredi dans les salles avec un 8e opus intitulé « Les derniers Jedi ». Les fans de la première heure doivent être ravis. Voilà, fin de ce flash. On garde un pied dans le 7e art avec toi Manon. Tu vas revenir sur un film typique de cette période de l'année dans cette dernière matinale.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9. Je vous propose aujourd'hui dans cette chronique cinéma un film d'animation aux couleurs de Noël et de l'émerveillement de l'enfance. Le film dont je vais vous parler se nomme « Les 5 légendes ». Commençons par quelques informations à propos du film. Celui-ci est sorti dans les salles françaises le 28 novembre 2012 et dure 1h37. Il a été réalisé par Peter Ramsey et pour la version française, on retrouve les voix de Gaspard Ulliel ou Nolwenn Leroy. Ce film se place dans les genres de l'animation, de l'aventure et de la famille. Je vous propose maintenant un petit synopsis. Depuis l'époque du Moyen-Âge, des personnages mythiques du folklore populaire forment un groupe appelé Gardiens, dans le but de protéger les espoirs et les rêves des enfants. On retrouve dans ce groupe le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et le Lapin de Pâques. Cependant, les enfants sont en danger, car Peach, ou Bonhomme Setter ou encore Croque-Mitaine, qui est exaspéré que les enfants ne croient pas en son existence et n'aient pas peur de lui, décide de s'en prendre à leurs rêves via le biais de cauchemars, afin qu'ils cessent de croire aux gardiens. Le groupe va leur demander de l'aide à celui qui les a choisis pour cette mission, et celui-ci va leur révéler qu'ils doivent prendre un nouveau gardien, Jack Frost.
On nous donne différents noms et nous prenons différentes formes. Nous apportons émerveillement et espoir. Nous apportons joie et rêve. Nous sommes le marchand de sable et la fée des dents. Nous sommes le lapin de Pâques et le Père Noël. Et nos pouvoirs sont plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Notre mission est de protéger les enfants du monde entier. Parce que tant qu'ils croiront à nous, nous ferons tout pour veiller sur eux. Ce rêve est terminé. La peur va enfin régner sur le monde. Jamais la menace n'a été si grande. Alors, nous nous battrons.
Déployez vos ailes, les filles, et pas de quartier!
Alors tu veux faire la course avec un lapin?
Mon armée est prête.
Tous au traîneau! Attachez-vous!
Y a pas de ceinture!
Ah, c'était juste expression! C'est parti!
Le traîneau, tout le monde aime ça!
DreamWorks présente les 5 légendes.
Je vous propose maintenant quelques anecdotes autour de ce film. Première anecdote. Celle-ci concerne l'écrivain William Joyce. Vous l'avez peut-être deviné, à la base, les 5 légendes est en réalité un livre écrit par William Joyce. Cette saga qu'il écrit n'est même pas encore terminée. Celle-ci devrait totaliser en total 15 romans. Deuxième anecdote en rapport avec la première. L'adaptation du roman n'est pas du tout fidèle à celui-ci. Mais cela ne pose aucun problème à l'auteur. Il dit d'ailleurs « Je n'ai pas envie que les gens lisent le livre, se retrouvent dans le film et soient déçus. Cela permet aussi de créer plus de surprises. » Dernière anecdote. Afin de créer les différents univers des personnages de ce film, l'équipe de réalisation a utilisé différentes sources d'inspiration, comme des illustrations de livres du XXe siècle jusqu'à l'architecture thaïlandaise ou vénitienne classique. Pour terminer cette chronique, je vais maintenant vous donner mon avis quant à cette œuvre. De manière générale, le film est très beau et coloré. L'animation est très bien réalisée, fluide et bien répartie. Quant aux personnages, je trouve que le physique qu'on leur a donné leur va très bien. Pour vous donner un exemple, le Père Noël est grand, large, costaud, habillé en blanc et en rouge, mais possède également une grosse voix avec un fort accent russe et des tatouages de Noël qui représentent bien ce qu'il fait. Je trouve l'histoire originale et assez rêveuse, ce que je trouve parfait pour les enfants. Maintenant, si on va plus dans le détail, le film est assez varié en décors et actions, ce qui fait qu'on le regarde bien du début à la fin. Les personnages, pour revenir à eux, possèdent un vrai sens dans ce film. Je pense surtout là au Croque-Mitaine, qui n'est pas un énième méchant copié-collé, mais a un vrai but. Qu'on le voit, qu'on croit en lui. Les caractères des personnages sont d'ailleurs très bien à mon sens, car ils ne sont ni noirs ni blancs, ils peuvent autant rire qu'être en colère et apporter des retournements de situation. Il y a vraiment dans ce film de la profondeur et ce petit quelque chose qui nous rappelle notre enfance et le plaisir qu'on avait à croire à la Fée des Dents ou au Lapin de Pâques. Pour terminer, je dirais que de mon point de vue, la voix de Jack Frost dans la version française est trop grave pour un garçon qui est resté physiquement à l'âge de 15 ans. De ce fait, j'ai préféré regarder la version québécoise, dans laquelle les dialogues sont d'ailleurs les mêmes que la version française. Je vous laisserai juger par vous-même. Je tiens à rappeler que c'est un film dédié à la base aux enfants, ce qui explique par exemple l'accent qu'ils mettent sur le fait de croire en ces personnages mythiques. Personnellement, je trouve cela bien, car ce genre de film nous rappelle certaines valeurs que l'on a apprises enfant et qu'avec le temps, nous avons pu oublier. Merci d'avoir écouté cette chronique cinéma. On passe maintenant à un instant musical avec des musiques spéciales de Noël. Christmas de Michael Bublé, Mon plus beau Noël de Johnny Hallyday et All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. C'était Cine News sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
It's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me. Deck the halls, not like Christmas at all. I remember when you were here, all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day.
J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre. Avec toi, je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie. Pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi. Je me prends à rêver ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai. L'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais pas. Mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois.
Just one thing I need, and I don't care about the
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers. 105.9.
De retour sur Radio Prévert 105.9. Après ces 10 minutes de musique, on poursuit avec toi Stéphane. Et dans ta chronique média, tu vas revenir sur une émission phare du petit écran qui fête son anniversaire.
Et oui Manon, on va revenir sur l'émission Des Racines et des Ailes, diffusée sur France 3, qui a fêté il y a quelques jours ses 20 ans. Media News, la gazette consacrée à la télé, à la radio et à la presse écrite. Des Racines et des Ailes, c'est l'un des magazines phares de France 3. Depuis 20 ans, le programme met en avant les hommes et les femmes qui font vivre le patrimoine naturel et architectural en France et hors de nos frontières. Le magazine conjugue ainsi proximité et ouverture sur le monde. Lancé à l'antenne pour la première fois le 25 novembre 1997, l'émission remporte un franc succès auprès des téléspectateurs. Vous connaissez tous ces quelques notes composant le célèbre générique. Alors c'est Patrick de Carolis, animateur puis patron du groupe France Télévisions, qui est l'investigateur de ce nouveau concept à l'écran. C'était à l'époque un pari énorme pour la chaîne. En effet, diffuser en prime time un magazine culturel comme celui-ci à une heure de grande écoute où ce genre d'émission était devenu rare était plutôt osé. Et pour cause, il fallait s'éloigner des grands mastodons et des codes des programmes précédents comme l'emblématique Apostrophe, émission littéraire en studio présentée par Bernard Pivot. Pour Patrick Charles, alors directeur des magazines de la 3 et ancien directeur de ce programme, l'objectif était de sortir des studios et d'installer les plateaux de tournage dans des lieux forts culturellement, comme il l'a relaté dans la presse. Ce qui devait être un magazine culturel s'est rapidement transformé en magazine sur le patrimoine. De Carolis, à travers l'émission, souhaitait donner les clés pour analyser le passé afin de mieux comprendre le présent. Autre point, il crée avec ce programme un moyen de voyager et de découvrir d'autres contrées et cultures, un point essentiel pour l'homme de télé. Réaliser une telle émission n'était au début pas de tout repos. Outre la préparation en interne, les équipes de la production devaient, dans un premier temps, obtenir les autorisations nécessaires pour tourner dans certains endroits. Et dans un second temps, il était nécessaire de déployer des moyens techniques importants pour réaliser le programme. Depuis 1997, les évolutions techniques ont permis d'ouvrir d'autres perspectives et de moderniser l'émission. Il est nettement plus simple d'aller dans des endroits difficiles d'accès ou réaliser des plans incroyables en utilisant des drones. Fort de son succès auprès du public, l'émission est déclinée en 2010 avec un programme intitulé Passion Patrimoine. On y retrouve à l'image d'une série, des épisodes, tout en images, consacrés à des territoires français.
Pour les 20 ans des Racines et des Ailes, je vous emmène en Grèce. À Athènes, sur l'Acropole, les temples de marbre révèlent pour la première fois leur couleur d'origine. Nous les avons restitués en images de synthèse.
Ici, je me sens au centre d'Athènes et même au centre du monde.
Puis nous irons au nord du pays, sur le mont Olympe, le domaine des dieux. Ce sommet mythique abrite la plus haute chapelle de Grèce. Enfin, nous embarquerons pour les Cyclades à Paros. Certaines maisons traditionnelles ont été repensées par les designers contemporains.
On a même le son de l'eau pour avoir cet esprit de fraîcheur.
Les 20 ans des Racines et des Ailes en Grèce, c'est mercredi 20h55 sur France 3.
Afin de célébrer ses 20 ans d'existence, le magazine s'est délocalisé en Grèce, dont à Athènes à cette occasion. Le choix est stratégique. En effet, on fête également l'anniversaire du classement au patrimoine mondial de l'humanité, de l'Acropole et du sanctuaire de Delphes. Parmi les temps forts de cette soirée, les téléspectateurs avaient pu notamment retrouver une reconstitution en 3D du Parthénon qui permettra de voir, enfin en tout cas qui a permis de voir le temple au temps de Périclès dans toute son intégrité et avec ses couleurs d'origine, signe une nouvelle fois de l'évolution constante du programme avec les évolutions de la technique. Au total, depuis 20 ans, seulement 3 présentateurs se sont succédés à la tête de l'émission, Des Racines et des Ailes. Patrick de Carolis donc, mais aussi Louis Laforge de 2005 à 2013, et enfin Carole Gessler. Cette saison, l'émission rassemble en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 11,6%. Aujourd'hui, fort de son succès, Des Racines et des Ailes est diffusé 3 fois par mois, les mercredis et toujours en première partie de soirée. Voilà Manon, fin de cette petite chronique dédiée à ce monument du service public. Et pour information, si vous désirez chez vous revoir certaines des émissions, elles sont disponibles en replay et en libre accès sur la chaîne YouTube du programme. On continue dans cette matinale en ouvrant une page histoire avec toi Manon, tu vas revenir sur quelques légendes de Noël. C'était Media News sur Radio Prévert 105.9.
Nom de Zeus, votre rubrique histoire, mythes et légendes. Voici une nouvelle chronique histoire. Celle-ci concernera les origines de Noël. Pour commencer, on va s'attacher à l'origine du mot Noël en lui-même. Il y aurait plusieurs hypothèses vis-à-vis de son origine. Le mot Noël n'apparaît dans notre langue qu'en 1175. Celui-ci viendrait de l'expression latine « dies natalis », qui signifie « jour de naissance ». Elle n'était employée que le jour où les chrétiens fêtaient la naissance du Christ. C'est au fur et à mesure des siècles que le mot « natalis » de « dies natalis » a changé pour muer en « Naël ». Le mot « Naël » évoluera encore pour devenir le mot « Noël ». Une autre hypothèse sous-entend que le mot « Noël » viendrait de la contraction de deux mots gaulois qui servaient à désigner la renaissance du soleil d'hiver, Noyo qui veut dire nouveau et elle qui veut dire soleil. Maintenant, attachons-nous à l'histoire de la fête de Noël. Au départ, 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains célébraient le 25 décembre le culte de Mithra, une divinité perse de la lumière. Ce jour-là, on sacrifiait un taureau pour plaire à la déesse. Ce n'est qu'après la naissance du christianisme que tout cela changera. Effectivement, il n'y avait à l'époque aucun document attestant de la date de naissance de Jésus. L'Église a donc délibérément décidé que la date serait celle du 25 décembre, afin de contrer la fête dite païenne de la divinité Mithra. Ce sera l'empereur Constantin qui fixera définitivement la date au 25 décembre, mais il faudra encore attendre 353 pour que la fête de la naissance de Jésus soit définitivement mise en place à Rome. Sous l'empereur Théodosée, en 425, la cérémonie de Noël devient codifiée et la fête devient complètement chrétienne. Des années et des années plus tard, le concile d'Age rend la fête définitivement obligatoire et encore des années plus tard, en 529, l'empereur Justinien fait de cette fête un jour férié. Au fur et à mesure des siècles, la fête de Noël va se répandre dans toute l'Europe. Elle atteindra l'Irlande au 5e siècle, l'Angleterre au 7e et l'Allemagne au 8e siècle. De nos jours, Noël a perdu sa connotation religieuse. Elle est plutôt devenue une tradition familiale. C'est en effet un jour particulier où les proches sont réunis et on passe du temps ensemble autour d'un bon repas et de cadeaux. La fête de Noël ne serait complète sans le personnage qui la symbolise, le Père Noël. Mais d'où vient-il ? Le Père Noël est à la base inspiré d'une personne réelle qui existait il y a plusieurs siècles, Saint Nicolas. Saint Nicolas est issu de Nicolas de Myre, aussi appelé Nicolas de Bari. Celui-ci est né à Patara, au sud-ouest de l'actuelle Turquie, pour vous en faire une idée, entre 250 et 270. Les chiffres ne sont pas exacts. Après Jésus-Christ, il fut le successeur légal de son oncle, l'évêque de Myre. Lorsque Nicolas de Myre existait encore, il était reconnu comme le protecteur des veuves et des faibles gens. Il était ainsi connu pour sa bienveillance et sa générosité. À la même époque, vivait l'empereur Dioclétien. Celui-ci régnait sur toute l'Asie mineure. Patara en faisait partie à l'époque. C'est avec cruauté qu'il poursuivait les chrétiens. Cette action amena Saint Nicolas à être contraint de vivre en exil. Ce n'est qu'en l'année 313 que Saint Nicolas sortit de l'exil et put reprendre sa place. Effectivement, ce fut cette année que l'empereur Constantin établissait la liberté de culte. 30 années plus tard, Saint Nicolas mourut, le 6 décembre 343 pour être précise. Celui-ci est probablement mort des persécutions faites par l'Empire romain à l'époque. Son cadavre fut enterré à Myre près des siens, mais sa sépulture fut vandalisée et ses os volés en 1087. Ses os auraient d'ailleurs été volés par des marchands italiens qui les auraient emmenés avec eux en Italie à Bari. La légende de Saint-Nicolas reste vivace, on lui donne de nombreux prodigieux miracles. C'est sans doute à cause de cela qu'il est devenu le saint patron de nombreuses choses, telles que les enfants, les avocats ou encore les célibataires. Pour en revenir à Noël, selon la légende, le Père Noël, alias Saint-Nicolas, passerait dans les chaumières à porter différentes friandises aux enfants sages. Mais il serait accompagné du Père Fouettard, qui quant à lui distribuerait des coups de trique aux enfants qui n'ont pas été sages. C'est une légende qui est plutôt vivace en France. Nous allons maintenant passer à, encore une fois, un intermède musical, avec Jingle Bell Rocks de Glee, Last Christmas de Wham et Check It Up de Train. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mixing and mingling, the jingling beat. That's the jingle bell. Rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night. To go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mixing, a mingling, a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell.
Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. Christmas time. I know you're out there. I hear your reindeer. I see the snow where your boots have been. I'm gonna show them so they will know then. Their love will grow when they believe.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
On se retrouve sur Radio Prévert pour une nouvelle émission. Celle-ci se passe avec un YouTuber. À toi Stéphane.
L'Entre des Geeks, la revue high-tech et multimédia sur Radio Prévert 105.9. Et aujourd'hui, dans la matinale de Radio Prévert, on va parler vidéo pour la première chronique geek depuis le début de cette saison. On reçoit Mickaël qui réalise des vidéos sur YouTube depuis 2013 sous le nom de The Duck Army. Bonjour Mickaël.
Bonjour Stéphane.
Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On utilise souvent le terme de YouTuber pour quelqu'un qui réalise et diffuse des vidéos sur la plateforme. Mickaël, est-ce que c'est un terme qui te semble approprié ?
Alors je trouve que ce terme n'est pas vraiment approprié dans mon cas en tout cas. Pour moi, quand tu me parles de youtubeur, ça fait plus référence à l'exercice du métier, comme si on parlait de livreur, agriculteur, professeur ou encore docteur. Ça fait vraiment penser au métier youtubeur. Quand un abonné il me dit que je suis son youtubeur préféré, je suis ravi de rivaliser avec des youtubeurs de plus de 500 000 abonnés, alors que bah, j'en ai à peine 2500. Donc c'est un petit peu bizarre qu'on me surnomme youtubeur parce que je n'appartiens pas vraiment à cette classe. En tout cas, je préférais le terme, plutôt le terme vidéaste ou créateur de contenu sur YouTube.
Justement, Mickaël, on va parler maintenant de ta chaîne. Pour quelles raisons tu as décidé au final de te lancer sur YouTube ?
Alors, je me suis lancé sur YouTube initialement parce que je suis passionné de réalisation audiovisuelle. J'ai toujours été passionné par la vidéo, en fait. Même quand j'étais plus jeune, je réalisais des vidéos un peu pourries, mais toujours, toujours créatives. Du coup, j'aime bien créer mon propre contenu et puis le présenter à un public. Quand j'étais plus jeune, c'était à ma famille. Là, c'est un peu différent. Ça permet d'exprimer un peu ma créativité et de disposer un peu d'une liberté totale puisqu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut à l'écran. Et puis, bah, du coup, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers YouTube pour publier mes vidéos.
Très bien. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme vidéo, justement, sur ta chaîne ?
Alors, si tu visites ma chaîne, le premier truc que tu verras qui te sautera aux yeux, c'est l'univers de Pokémon. En fait, je réalise essentiellement des tutoriels d'une durée variant entre 5 et 20 minutes sur la création de son propre jeu Pokémon. Je m'explique. En fait, j'explique pas à pas comment concevoir un jeu Pokémon ressemblant quasiment à l'identique à ce qu'on avait pu jouer quand on était plus jeune. Bien que la plupart y jouent toujours encore aujourd'hui. De temps en temps, je cherche un petit peu à varier mon contenu en proposant des vidéos un peu plus divertissantes. Comme exemple, je pourrais citer des petits jeux avec un pote en face caméra, où en fait l'objectif était de faire deviner un mot qui se cachait derrière un dessin. Voilà.
Alors on vient d'entendre ce générique mythique qui dit forcément quelque chose à des millions d'enfants de notre génération, c'est Pokémon bien sûr. Mickaël, pourquoi avoir choisi les Pokémon en thème de fond tout simplement ?
Il faut savoir que j'ai pas vraiment choisi Pokémon par passion, même si je jouais quand j'étais jeune. J'ai choisi Pokémon car en fait le système de création de jeux que j'avais découvert il y a 4-5 ans, en fait, ce système de création de jeu reposait sur cette licence, sur la licence Pokémon. Donc voilà, je me suis tourné automatiquement vers Pokémon vu que ça reposait sur ça. Puis en fait, par la suite, ma créativité l'a remporté. Ce système me permettait de pouvoir créer mon propre environnement, placer des maisons, des grottes, des personnages, gérer des combats, créer des Pokémon, créer des attaques. Bref, la liberté était totale, puis ça dépendait que de notre motivation. Puis pour faire un peu de pub, je vais quand même remercier toute la team qui est autour de ce système de création de jeu Pokémon. C'est un système qui est appelé Pokémon Free Project ou PSP pour les intimes.
D'accord, très bien. Alors, plus concrètement sur ta chaîne, tu l'as nommé The Duck Army ou l'Armée des Canards en français. Pourquoi ce nom ?
Alors, c'est une question qui revient assez souvent, qui m'est souvent posée par mes abonnés. Pourquoi j'ai choisi The Duck Army ? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont un petit peu motivé à faire ce choix. Dans un premier temps, c'était surtout parce que c'est un pseudo qui est original et qui se retient très facilement. Voilà. De Carmi, ça se retient facilement, une fois qu'on l'a vu, on retient rapidement. Je remarque même que dans le champ de recherche sur YouTube, pour trouver mes vidéos, le terme le plus utilisé, c'est mon pseudo, The Duck Army. C'est même pas créer un jeu Pokémon. Donc pour montrer que ça a vraiment une importance, que le choix du pseudo a vraiment une importance. Sinon, à part ça, autre raison, le nom a été inspiré par un célèbre YouTuber du nom de PewDiePie. Qui est actuellement le youtubeur qui dispose de plus d'abonnés, à peu près dans les 50 millions, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et en fait, ce nom, PewDiePie, m'a fortement inspiré, parce qu'il dispose lui aussi d'un pseudo en trois parties, comme The Duck Army. Et puis sinon, concernant les canards, j'aime bien les canards jaunes en plastique, les vrais aussi d'ailleurs. Et puis, c'est toujours bien d'avoir un personnage ou un animal qui illustre sa chaîne, c'est toujours plus intéressant, plus divertissant. Je peux faire vivre ce canard, en fait, au travers de mes vidéos. Et puis, bien entendu, cette armée regroupe tout simplement tous mes abonnés et les personnes qui me suivent. Ce sont des véritables canards et je suis là pour tout diriger en quelque sorte, pour l'image un petit peu.
Très bien, donc tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Et en général, tu mets combien de temps pour réaliser une vidéo ? De l'idée à la diffusion en passant, bien entendu, par le montage et le tournage ?
C'est une question un petit peu complexe parce que ça dépendra toujours de la vidéo en question. Pour un tutoriel classique, on va dire d'une durée moyenne de 10 minutes, après je peux aller beaucoup plus loin, je vais jusqu'à 20 minutes, parfois que 3 minutes, 5 minutes, voilà, donc pour 10 minutes à peu près, je commence en général par piocher l'idée de mon tutoriel dans ma liste de suggestions de tutoriel, une liste que je remplis petit à petit selon les demandes des abonnés sur ma chaîne YouTube. Je privilégie surtout des tutoriels simples, pas seulement pour que les gens les comprennent bien, mais surtout pour que je sois vraiment capable de bien les présenter. Voilà, parce que ça serait vraiment idiot de présenter un tutoriel que même pas moi je comprends. Sinon, à part ça, le tournage il va s'étaler sur une journée, voire deux, selon la vidéo. Et le montage, qui est l'étape la plus longue, elle peut durer à peu près une semaine en bossant, on va dire, à mon rythme. Après, ça dépend toujours des vidéos, puisque certains montages peuvent durer quasiment des mois. C'est le cas, par exemple, d'un concours que je suis actuellement en train de réaliser, où les vidéos durent plus d'une heure. Ensuite, après le montage, je programme la publication de la vidéo sur YouTube à une certaine heure, et je programme aussi la publication sur les réseaux sociaux. En ce moment, je suis pas mal occupé. Alors du coup, sur ma chaîne, il n'y a pas vraiment d'activité. Je peux que sortir une vidéo à peu près par mois.
Très bien. Et c'est important de programmer des vidéos comme ça à des moments précis dans le temps sur YouTube, à ton avis ?
Alors moi, personnellement, je pense que c'est important pour être sûr de cibler la bonne plage horaire. Parce que si on publie une vidéo, on va dire, en journée, donc je sais pas, admettons maintenant je la publie à 15h, la plupart seront pas forcément disponibles à 15h pile pour voir la vidéo. Ce type de personnes vont préférer la voir en soirée, lorsqu'ils rentreront chez eux, après l'école par exemple, ou après le travail. Mais je préfère le publier à une heure de grande écoute, on va dire, pour être sûr que les personnes qui vont recevoir la notification vont tout de suite appuyer dessus et auront le temps de la regarder. Si je publie une vidéo à 15h, les personnes vont recevoir la notification à 15h, et puis si elles sont en cours, elles vont pas forcément cliquer dessus pour regarder la vidéo. Et puis du coup, elles oublieront, on va dire, la soirée. Donc je pense que ça a vraiment une importance, la publication, l'horaire de publication d'une vidéo.
Donc on a beaucoup parlé de vidéos, des vidéos que tu publies sur ta chaîne, mais YouTube permet également de faire des directs. Est-ce que c'est un outil que tu utilises pour rester en contact en quelque sorte avec tes abonnés ?
Ouais, ça m'arrive de temps en temps de faire des diffusions en direct sur ma chaîne. À vrai dire, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu beaucoup. Je dirais moins d'une dizaine en 2017, donc rien que pour cette année. Mais je prévois bien entendu d'augmenter ce rythme. Les lives, les diffusions en direct durent en général 2h à 3h, selon le programme en fait, selon ce que j'ai à présenter. Et puis ils me permettent en fait d'instaurer une relation qui est un peu plus proche avec mes abonnés par rapport à la publication de vidéos. Les lives, ça permet vraiment de pouvoir interagir avec des personnes sur Discord et tout ça en temps réel.
Donc Mickaël, tu nous as parlé de Discord, donc c'est en quelque sorte une plateforme qui permet de parler avec ta communauté. Mais si je comprends bien, c'est pas du live vidéo comme ce que propose YouTube.
Alors pour détailler un petit peu ce logiciel Discord, pour expliquer un peu comment est-ce qu'il fonctionne, en fait c'est un logiciel de discussion instantanée qui ressemble un petit peu à Skype. Je dis juste un petit peu parce qu'il est largement plus amélioré que Skype. Et puis il est vraiment destiné et il est beaucoup plus pratique pour les communautés. Chacun est libre de créer un serveur qui regroupe ensuite ses contacts et ses amis. Par exemple, j'ai installé Discord. J'ai créé un serveur qui s'appelle The Discord Army, qui reprend un petit peu le nom de ma chaîne. Et en fait, ce serveur, il va regrouper les abonnés à ma chaîne et les personnes qui apprécient Pokémon et la création de jeux. Sur ce serveur, on peut y retrouver différents salons de discussion. Pour citer quelques exemples de différents salons de discussion, il y a par exemple le salon général qui permet en fait de discuter de tout ce qu'on veut. Voilà, de ce qu'on a fait de la journée, de l'actualité, voilà, de tout ce qu'on veut. On est vraiment libre. Ensuite, il y a un salon qui est appelé support, qui est destiné en fait à l'entraide entre abonnés. Voilà, s'il y a un problème avec le logiciel de création de jeux Pokémon, on peut soumettre nos erreurs et puis les autres peuvent y répondre et apporter leur aide. Sinon, à part ça, il y a aussi le salon Pixel, en fait. Le salon Pixel va permettre aux membres de partager leurs créations graphiques, comme une ville qu'ils ont dessinée sur le logiciel, ou encore, un Pokémon qu'ils ont créé eux-mêmes. Et puis pour terminer, on a aussi par exemple le salon de discussion Flux. Alors le Flux, en fait, c'est le flux d'actualité de ma chaîne YouTube, où je vais annoncer les nouvelles vidéos, où je vais présenter l'actualité de la chaîne, mes nouveaux projets, l'annonce des lives. Je trouve en fait que Discord, c'est beaucoup plus sympa à utiliser par rapport à les réseaux sociaux, parce que ça y ressemble un petit peu. Mais les réseaux sociaux, ils ont vraiment une plus faible portée pour ma chaîne. Du coup, je préfère privilégier Discord.
Donc, Mickaël, tu es vidéaste, également community manager, mais aussi graphiste, infographiste plus précisément, j'imagine. tu es multicasquette en quelque sorte.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, être vidéaste nous oblige un petit peu à toucher à tous les domaines du multimédia, surtout quand on est seul. On n'a pas d'autre personne qui va pouvoir s'occuper de telle et telle chose. On va devoir tout faire nous-mêmes. Par exemple, des notions de graphisme sont nécessaires dans la réalisation des miniatures, pour mes vidéos. Ou encore, on a besoin de ces notions de graphisme dans la réalisation de la charte graphique de la chaîne. Avec tout ça, s'ajoutent bien entendu les connaissances en tournage de vidéos. Vu que moi, c'est un peu plus complexe parce que je vais pas filmer avec une caméra le monde réel, on va dire, mais je vais tout simplement capturer la plupart du temps mon écran d'ordinateur. Vu que je présente des tutoriels de création de jeux, je dois expliquer où est-ce qu'il faut cliquer pour faire ceci ou pour faire cela. Et puis, en montage, qui est l'étape donc la plus cruciale, il faut aussi avoir pas mal de compétences dans ce domaine pour proposer une vidéo, un tutoriel qui est fluide, qui est animé, où il n'y a pas de lenteur, ou qui est facilement compréhensible en fait, parce que c'est vraiment ce que verront les internautes. Donc oui, il faut vraiment être polyvalent quand on travaille seul, en tout cas sur YouTube.
Et prochainement, un dernier mot pour ta chaîne, est-ce que tu as d'autres projets autres que les tutoriels dans les mois à venir, et quels sont-ils?
Ah, alors j'ai pas mal de projets, je peux pas tous les citer car pour le moment c'est la plupart restent secrets. Ce que je peux dire, c'est que je compte en tout cas diversifier ma chaîne à l'avenir, c'est vraiment important pour moi. Je vais par exemple proposer des vidéos de jeux vidéo. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est moi qui va jouer. Je ne vais plus proposer des tutoriels pour créer un jeu, mais je vais tout simplement proposer des vidéos. C'est moi qui va jouer à des jeux comme Super Mario 64, par exemple, ou d'autres jeux qui m'ont passionné durant mon enfance. Je cherche à rester malgré tout dans l'univers de Nintendo, dans l'univers du jeu et du divertissement.
Alors, on va désormais parler plus de toi maintenant, Mickaël. Alors pour toi, j'imagine que c'est donc une véritable passion, l'univers de la création audiovisuelle.
Effectivement, on peut vraiment appeler ça une passion. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui permet d'exprimer ma créativité, et surtout d'exprimer ses idées, d'exprimer mes idées. Je pense que je ne pourrais jamais en être lassé, sauf si le travail est répétitif et qu'il ne varie pas vraiment. C'est un peu le souci que j'ai avec les tutoriels. Ça se répète, il y a tout le temps la même présentation, on va dire. Il y a juste le thème qui change, en fait. Mais sinon, l'idée reste la même. C'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir varier mon contenu pour poursuivre cette passion.
Donc, éviter de tomber dans une routine au final. Alors, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est facile de percer sur YouTube?
Alors, moi, je pense que c'est tout le contraire. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile de percer sur YouTube. Du coup, c'est vraiment difficile parce qu'il y a énormément de youtubeurs sur le web qui ont déjà pris leur place sur le web. Il est difficile de se mettre en avant et puis surtout d'évoluer sur la plateforme. Il faut beaucoup s'investir et monter son projet sur des solides bases. Il ne faut pas commencer avec une petite idée idiote. Par exemple, j'aime bien jouer à des jeux. Il ne faut pas se lancer à la va-vite en se disant tiens, j'aime bien Minecraft, je vais faire des vidéos sur Minecraft parce que Minecraft, c'est un univers, on va dire, qui est largement présent sur YouTube. On y voit pas mal de vidéos. Il faut vraiment réfléchir à un concept intéressant. De plus, l'algorithme de YouTube est vraiment nul puisqu'il préfère en fait de mettre en avant des YouTubeurs connus dont leur contenu n'est pas toujours intéressant et travaillé. Ces derniers préfèrent un petit peu surfer sur la mode, les tendances ou encore les titres de vidéos aguicheurs. Même pour un petit youtubeur, c'est pas forcément facile de se lancer sur YouTube.
D'accord, Mickaël. Donc, on parlait juste avant de la création audiovisuelle comme passion. Est-ce que tu penses, est-ce que tu aimerais en tout cas un jour que YouTube devienne ton métier à l'image de Cyprien ou encore de Squeezie?
Alors, je pense que pour moi, ça serait un rêve. C'est vraiment un rêve de pouvoir travailler dans sa chambre ou dans un studio comme ont fait Cyprien et Squeezie à leur début. Malheureusement, aujourd'hui, ça reste qu'un rêve parce que, comme expliqué juste avant, c'est très difficile de se faire une place sur la plateforme. Et vaut mieux pas se faire trop d'idées, sinon on peut vite être découragé, vite être déçu. Mon objectif, c'est pas d'avoir le même impact, le même niveau que Cyprien ou encore Squeezie. Mais c'est juste de faire ce qui me plaît, et puis quand il y a des personnes qui sont ravies, qui sont contentes de mon contenu, ça fait toujours plaisir. Mais après, je ne viserai non plus pas un tel niveau de notoriété, je dirais.
D'accord. Donc on approche bientôt à la fin de cette interview. Mickaël, est-ce qu'il y a un youtubeur ou youtubeuse d'ailleurs que tu apprécies énormément et avec lequel tu aimerais, pourquoi pas un jour, rêvons un peu, réaliser une vidéo?
Alors c'est un peu compliqué comme question parce que je me suis abonné à plus d'une centaine de chaînes YouTube à travers le monde. Sur cette plateforme, on trouve vraiment tout, des comédiens, des artistes, des musiciens, etc. Si je devais en choisir un, j'en choisirais plutôt deux, le duo McFly et Carlito. Ce sont deux youtubeurs qui réalisent des vidéos assez originales, comme le concept Mario Kart bleu, qui consiste en fait à jouer une partie de Mario Kart avec des potes, et celui qui perd doit tout simplement donner le code de sa carte bleue au gagnant. Celui-ci pourra commander ce qui lui fera plaisir, comme un moteur à bateau ou un barbecue, alors que le perdant habite dans un appartement. Ils aiment aussi composer des musiques relativement fun, je trouve assez drôle. Puis sinon, oui, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir réaliser une vidéo avec eux, ou du moins participer à l'une de leurs vidéos pour voir l'ambiance et tout ça, les conditions de tournage.
Très bien, c'est noté, on ne sait jamais, ils peuvent toujours nous écouter sur Radio Prévert, sur Internet. Dernière question, Michael, quel conseil au final tu donnerais à des personnes qui souhaiteraient débuter sur YouTube ?
Pour les débutants ou les gens qui prévoient de se lancer dans le YouTube game, comme on aime bien l'appeler, je leur conseille déjà de se lancer sans hésiter, parce que si c'est quelque chose qui nous plairait, bah, pourquoi attendre ? Voilà, on peut se lancer immédiatement sans attendre. Mais avant de se lancer, il faudra quand même réfléchir à un concept innovant, à des idées originales, de proposer quelque chose justement qui est original et qui n'existe pas encore sur la plateforme. Je conseille aussi de bien travailler son projet, sa charte graphique, sa communication sur les réseaux sociaux, c'est très important pour toucher un maximum de monde. Il faut aussi créer, je pense qu'il faut créer des vidéos parce que ça nous plaît, et surtout pas en créer juste pour le plaisir des spectateurs, parce que sinon la motivation, l'envie de faire des vidéos sur YouTube va peu à peu s'atténuer si on s'adapte de trop aux spectateurs. Sinon, je conseille aussi de ne pas faire attention aux insultes que l'on peut souvent retrouver en commentaire sous nos propres vidéos.
Les fameux haters ?
C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, donc vraiment, supprimer ces messages, ne pas faire attention à cela. Mais pour rester dans les commentaires, je conseille aussi surtout de prendre en compte les critiques pour améliorer son contenu et surtout pour s'améliorer en termes de montage et de tournage. Voilà, Donc voilà mes principaux conseils.
Très bien, bah c'était très intéressant, Michael. Merci, Michael, pour cette interview.
Bah, merci en tout cas à Radio Prévert de m'avoir reçu. Et puis, à bientôt.
Je rappelle, Michael, que l'on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube The Doc Army, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On écoute maintenant J'effectue le dab de McFly et Carlito, un morceau de tes deux YouTubeurs préférés. Au revoir, Michael.
Au revoir.
Dans des endroits inadéquats, ouais, j'apprécie daber dans des contextes inadaptés à toi.
J'effectue le dab dans des endroits inadéquats, ouais, j'apprécie daber dans des contextes inadaptés.
Dans des endroits de l'ombre,
j'effectue le dab, j'effectue le dab.
À l'heure de pointe dans le métro,
j'effectue le dab, j'effectue le dab.
Lors d'un repas avec mémé,
j'effectue le dab, j'effectue le dab.
Quand on me sert un petit café,
j'effectue quoi ? J'effectue le dab.
J'effectue le dab dans des endroits inadéquats.
J'apprécie daber dans des contextes inadaptés.
Quand je fais dodo,
j'effectue le dab, j'effectue le dab.
Bien quand je fais popo,
je dispose mes bras de manière à faire le dab.
Dans un repère orthonormé,
j'effectue le dab, j'effectue le dab.
Quand je tiens un petit bébé,
j'effectue le dab.
J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. J'apprécie daber dans des contextes inadaptés à toi.
J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais, j'apprécie daber dans des contextes inadaptés.
C'était l'Entre des Geeks sur Radio Prévert 105.9.
Le saviez-vous ? Les anecdotes les plus insolites et tout ce que vous ne saviez pas, c'est maintenant sur votre fréquence.
On poursuit désormais avec toi, Manon, pour ton habituelle chronique Le saviez-vous ? Tu reviens ce matin sur des anecdotes autour de Noël, c'est à toi.
Donc nous revoilà bien dans un nouveau Le saviez-vous ? Celui-ci est donc spécial Noël. Et sans plus attendre, nous allons commencer le tour de nos informations insolites. Pour commencer, parlons de l'histoire du Père Noël qui vole dans le ciel grâce à un traîneaux tirés par des rennes volants. Mais d'où cela vient-il ? Eh bien, ça ne remonte pas à aussi loin que certains pourraient le penser. Effectivement, ce détail concernant le Père Noël vient tout droit de l'imagination de l'écrivain américain Washington Irving, qui fut le premier à imaginer cette scène en 1819. Pour ceux qui ne connaissent pas cet écrivain, il faut savoir que c'est l'auteur du Cavalier sans tête. C'est moins joyeux d'un coup. Cette scène est devenue tellement populaire qu'elle finit par rester gravée dans la mémoire de cette fête. Une autre information insolite, celle-ci plus courte. Savez-vous d'où vient la tradition de décorer le sapin de Noël ? Celle-ci serait une tradition germanique que l'on effectuait au solstice d'hiver. D'ailleurs, en réalité, les premiers sapins décorés datent du XVIIe siècle et viennent de Strasbourg. Pour terminer, savez-vous comment se passe Noël dans les autres pays ? Laissez-moi vous donner quelques exemples pour attiser votre curiosité. En Finlande, la tradition à Noël consiste à visiter les saunas. Intéressant, n'est-ce pas ? Au Portugal, Noël est aussi l'occasion de célébrer les disparus qui ont une place libre à table. En Grèce, par superstition, les cadeaux ne sont pas toujours donnés avant le 1er janvier. En Australie et en Nouvelle-Zélande, Noël se fête à la plage autour d'un barbecue. Et ainsi de suite, Noël se décline toujours sous différentes formes. C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9. Les chroniques de cette matinale sont désormais terminées. Stéphane, as-tu une dernière information avant de refermer complètement la matinale ?
Et oui Manon, le mondial du handball féminin a commencé en Allemagne, vous le savez peut-être. Cependant, les joueuses n'ayant pas été sélectionnées en équipe nationale ne restent pas sans rien faire. Effectivement, celles-ci participent à des matchs de gala. Vous pourrez donc retrouver le vendredi 15 décembre Dijon affronter dans un match amical les joueuses de Vaux-en-Velin. Cette rencontre inédite est l'occasion parfaite de voir deux équipes de haut niveau s'affronter. Le match sera ouvert à tous au tarif unique de 4€ et commencera à 20h30 à la Maison des Sport de Chalon-sur-Saône. À la fin du match, vous pourrez profiter d'une séance de dédicace avec les joueuses. Ce match de gala est organisé en partenariat avec l'AS Handball Club Chalon-sur-Saône et le comité de Saône-et-Loire de handball. C'est ici l'occasion parfaite de promouvoir le sport féminin au-delà des frontières dijonnaises. Et à cette occasion, Radio Prévert vous permet de gagner des places pour ce match. Rendez-vous donc très vite sur notre page Facebook pour tenter votre chance. Laissez-nous un message privé, on vous recontactera si vous avez gagné.
Et on vous souhaite désormais un très joyeux Noël à vous tous. Effectivement, il n'y aura pas de matinale la semaine prochaine. Il y aura à la place un « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» avec des élèves. Je vous laisse à votre curiosité. Et n'oubliez pas, souhaitez un joyeux Noël à vos amis et à votre famille. Joyeux Noël Stéphane !
Joyeux Noël Manon !
Au revoir !
Au revoir !
Good morning, Radio Premier !
Good morning !
Good morning !
Good morning !
Yeah, good morning !
Whoa, good morning !
And good morning, Radio Premier !